Alors bonjour à tous, je me présente, je suis Frédéric Martin, conservateur et je travaille à la BNF, au département de la bibliothèque numérique. Alors peut-être pour situer en deux mots ce département, c'est un petit département au sein de cette grande maison qui est la BNF, puisque nous sommes 7 personnes à travailler dans ce département qui est dirigé par Catherine Nicolici. Et c'est un département qui a pour mission de piloter, de coordonner un certain nombre de projets ayant trait à Internet et aux collections numériques. Je n'en citerai que deux qui sont les plus importants pour nous actuellement. Il y a bien sûr l'archivage du web et puis la mise en place d'un système de préservation à long terme des documents numériques. Voilà les deux gros projets actuellement qui nous occupent au département de la bibliothèque numérique. Alors, je ne vais pas du tout vous parler de ces deux projets aujourd'hui, puisque j'ai choisi de vous proposer une réflexion sur le catalogue et sur une évolution possible du catalogue. Alors, c'est vrai que la question des catalogues revient très souvent dans la profession. Il y a eu un numéro du BBF l'année dernière, vous vous en souvenez peut-être, qui a été consacré entièrement au catalogue, sur la mort, la transfiguration des catalogues. Quel est le devenir des catalogues et le devenir des catalogueurs, avec même parfois des termes assez violents. On parlait de l'assassinat des catalogueurs, donc c'était radical comme solution. Donc effectivement, la question du catalogue revient souvent, hein, c'est quelque chose qui nous préoccupe beaucoup. Quelle est la place actuellement du catalogue dans notre activité et essentiellement sur Internet? Alors, nous avons vu qu'il y a plusieurs façon de faire évoluer et d'améliorer le catalogue. Déjà, hein, parmi les intervenants qui ont déjà parlé sur ce sujet, qui ont évoqué le catalogue, il y a une amélioration possible qui consiste à intégrer le catalogue dans un environnement de travail personnalisé, comme on l'a bien vu avec l'université, la CD de l'université d'Artois. Il y a une autre façon qui consiste à imaginer d'autres modes de navigation dans le catalogue, que ce soit l'expérience de Paris 8 avec le Visual Catalogue ou l'expérience de l'USCD de Paris 12 sur la navigation sémantique. Donc voilà des pistes et voilà des expérimentations qui sont faites vraiment pour faire évoluer le catalogue, pour améliorer le catalogue. Moi, j'ajouterais une autre approche qui n'est pas incompatible avec les deux approches précédentes, qui concerne les données, la façon dont on peut et on doit utiliser, réutiliser les données de notre catalogue et comment on pourrait ouvrir ce catalogue sur l'espace documentaire du web. Alors, actuellement, hein, le plus souvent, dans les catalogues actuels, on a des pages HTML qui sont générées à la volée, et l'utilisateur doit ouvrir une section d'accès. Alors là, ce sont déjà des obstacles qui font que nos catalogues ne sont pas ouverts sur l'espace du web. Le contenu de ces catalogues, de ce fait, n'est pas ou peu adressable, c'est-à-dire qu'il est difficile pour des internautes de créer des liens vers des notices du catalogue, vers des ressources numériques qui sont décrites dans ce catalogue. Et notre corollaire de ces obstacles techniques, c'est que le contenu des catalogues est pas ou peu référencé. Alors, je dirais que c'est quand même paradoxal, puisque ces deux principes sur l'hypertexte et le référencement sont les principes de base de l'Internet. Donc on a des catalogues qui sont en ligne, qui sont présents sur Internet, mais qui d'une certaine manière échappent à ces grands principes de l'Internet. Et je dirais qu'on a des obstacles techniques, mais est-ce que ce sont finalement que des obstacles techniques? Est-ce qu'il n'y a pas derrière ça aussi l'idée qu'il y a des obstacles culturels, en tout cas une tradition qui est très forte dans notre représentation du catalogue, l'histoire du catalogue, qui reste toujours présent d'une manière ou d'une autre, sous forme physique, sous forme papier. Donc à mon avis, il faudrait aussi pouvoir changer dans la façon de concevoir, de percevoir, d'imaginer le catalogue sur Internet. Alors, si je reprends l'expression un peu triviale que j'ai choisie pour intituler cette présentation, libérer les données, Alors, libérer les données de quoi? De quoi pourrait-on les affranchir? De quoi sont-elles prisonnières? Alors déjà, les données sont à libérer des zones non indexées, par l'indexation monotype, qui est quelque chose de finalement assez récent pour nous dans les catalogues, puisque longtemps, certaines zones des notices n'étaient pas du tout indexées. C'est dû à des questions de puissance des moteurs de recherche, à des capacités purement techniques et informatiques. Donc on pourrait déjà, toutes les données, les indexer. Ces données, on peut également les extraire, les affranchir du format de travail. Alors le format de travail, c'est le format de gestion, de production des notices du catalogue. Ça consiste donc à créer un format pivot en XML qui facilitera ensuite la conversion, le passage à d'autres formats et donc, en conséquent, à réutiliser les données. Et les libérer également du catalogue. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas là de détruire le catalogue, mais de prévoir un mode de diffusion des données consiste à les exposer pour qu'ensuite elles puissent être récupérées automatiquement par d'autres institutions ou par des moteurs de recherche généralistes. Alors, pour reprendre brièvement sur l'indexation monotype, les principes, tous les champs sont indexés, tous les mots et les caractères sont indexés, même les caractères non latins, et ça c'est quelque chose quand même qu'il faut... Il faut rappeler, donc grâce à ce jeu de caractères universel qu'est-ce. Et puis, on peut effectuer, l'utilisateur peut effectuer une requête sur plusieurs termes, dans plusieurs champs, en une seule fois. À la Google. Donc, ouais, ça évite de passer par différents filtres et différents index, l'index date d'édition, l'index auteur, l'index titre. Alors, on a un risque avec cette indexation monotype, c'est le bruit que ça pourrait générer. Et la solution consiste à élaborer des critères de pertinence. C'est quelque chose d'assez nouveau pour nous dans les bibliothèques. En fait, créer des critères de pertinence qui seraient liés au document même. Pour les moteurs de recherche généralistes, les documents sur le web sont pondérés par leur notoriété. Et nous, dans les bibliothèques, on n'accorde pas de notoriété aux documents. Tous les documents sont égaux, sont libres et égaux en droit, on pourrait dire d'une certaine façon. Donc, cette réflexion sur les critères de pertinence, elle est assez nouvelle pour nous dans les bibliothèques. Donc, sans aller jusqu'à créer des inégalités sur les documents, on peut quand même poser cette question de la pertinence, comme l'ont fait deux grandes bases et deux grands catalogues qui sont en fait le catalogue de RLG, Red Light Green, et celui de Oyster, qui est une grande base de données en OLI de l'Université de Michigan. Alors, le premier propose de regrouper les notices du catalogue par titre, c'est-à-dire que les différentes éditions d'un même ouvrage sont regroupées dans une grappe. Comme ça, déjà, l'affichage, on a quelque chose d'un peu plus facile à exploiter. On a d'abord le titre, puis ensuite, on a donc ce regroupement par édition, qui est fait de façon automatique, donc qui n'est pas toujours très facile. Mais tout de même, c'est quand même un effort assez remarquable. Et puis, OSR, qui donc permet de pondérer des résultats, c'est une option, en fonction de la zone dans laquelle l'occurrence apparaît. Par exemple, si je tape le mot « misérable », dans la liste des résultats, j'aurai, au début de résultats, les notices dans lesquelles le mot « misérable » apparaît dans le titre ou dans les champs sujets, puis ensuite, éventuellement, dans les champs de notes ou autres. Donc voilà deux moyens pour pondérer les résultats dans le cadre des notices. Alors, pour comment réutiliser les données? Je pense qu'on devrait pouvoir mieux dissocier ce qui relève des données de ce qui relève de l'accès, de l'interface, de la façon dont on les présente ces données. On pouvait proposer plusieurs interfaces d'accès à partir d'une même source de données. par exemple, des interfaces qui seraient différentes selon le public visé, si c'est grand public ou chercheur, ou pouvoir proposer de façon alternative différents modes de navigation et d'indexation. Alors, quelques mots là, sur le format pivot. Qu'est-ce que c'est que ce format pivot? C'est une mise en XML du format de travail, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui peut servir à des conversions dans d'autres formats, comme le WCorp, MOS, Phonics, etc. Par exemple, on a le format MarkXML de la bibliothèque du Congrès, qui est basé sur Mark21. Et à la BNF, on a également un format InterXMark, qui, je vous montre un exemple. Alors qu'est-ce qu'on a? Tout simplement, on retrouve les étiquettes de zone et les étiquettes de sous-zone dans des balises XML avec les champs et les sous-champs. Et les valeurs de ces données, je les ai mises ici. Donc ça peut nous servir ensuite à récupérer les données et à en faire plusieurs usages, à les utiliser. L'autre grande question, c'est celle du partage des données, de l'interopérabilité. Alors, l'interopérabilité, qu'est-ce que c'est? C'est la faculté pour deux systèmes de dialoguer entre eux. Alors, on distingue communément deux types d'interopérabilité. L'interopérabilité syntaxique, qui se situe au niveau des formats de données, et l'interopérabilité sémantique, qui se situe au niveau du contenu, des valeurs de données elles-mêmes, qui est, par exemple, utilisée dans le cadre du multilinguisme. Donc là, moi, je vais surtout parler de l'interopérabilité syntaxique. Alors, quel est l'enjeu pour les bibliothèques? C'est constituer des passerelles entre les communautés qui restent encore assez cloisonnées, communautés d'archives, musées, bibliothèques, éditions, et la communauté du web plus largement. Concrètement, on a la possibilité de reconstituer virtuellement des fonds numériques qui sont dispersés pour des raisons historiques. C'est une des illustrations de ce partage des données. Et on peut créer également des collections thématiques pluridisciplinaires entre plusieurs institutions partenaires, comme Gallica avec les pôles associés, ou avec la bibliothèque du Congrès dans le cadre du projet France Amérique. Alors, un autre enjeu concernant la diffusion des données, c'est la visibilité sur Internet. Améliorer le référencement par les moteurs de recherche généralistes. Donc, avec ce format pivot, on va pouvoir également améliorer ce référencement. Je l'avais dit au tout début, rendre les notices et les ressources adressables, c'est cette notion de citabilité des notices et des contenus. À la BNF, en fait, ça se traduit par l'adoption d'un format d'URL pérenne qui est le format ARC. C'est un enjeu important pour nous puisqu'il permet de signaler les collections numériques en accès libre et donc multiplier les points d'accès à ces collections. Il est en cours d'implémentation. Bon, ce n'est pas encore visible sur le site et les sites de la BNF. Il existe un moyen très efficace pour répondre à ces besoins et pour atteindre ces objectifs, c'est l'OAI-PMH, Open Archive Initiative Protocol for Metadata Harvesting, qui est un protocole technique pour la collecte des métadonnées, et qui a été conçu pour répondre en fait, à un besoin au départ qui était celui de la visibilité des documents scientifiques électroniques sur le web. Des documents qui sont importants au niveau scientifique, mais qui n'étaient pas ou peu indexés sur Internet. Mais il est également utilisable dans le domaine culturel, dans le domaine patrimonial, par, je dirais, tout fournisseur de services, quand on est des fournisseurs de données, qui souhaiteraient signaler des ressources numériques, documentaires, sur le web. Alors, la méthode consiste à mettre des notices, à exposer ces notices sur un serveur web dans un ou plusieurs formats XML. Un seul format étant obligatoire, c'est le WCorp simple.
ces outils sont collectés automatiquement via des requêtes HTTP et ensuite intégrés dans d'autres bases de données. Et seules les métadonnées, seule l'information est échangée, pas les documents numériques, qui sont accessibles sur le site d'origine. Alors, à la BNF, l'OAI se traduit par l'exposition de 36 000 notices de documents de Gallica. Donc on a fait des clones de notices de Gallica en XML, en double corps, pour les mettre sur ce serveur. Et on a créé des ensembles de notices par type de document, par thème généraux à partir de la DIWE, grande division de la DIWE, et par fond ou par dossier de Gallica. Et à terme, toutes les collections numériques libres de droit seront signalées sur l'entrepôt, et également les notices bibliographiques de BN Opal Plus, qui représentent à peu près 10 millions de notices. Alors, un exemple de notice OI, je ne sais pas si on voit très bien. Alors là, c'est les coulisses que vous pouvez voir. En fait, c'est pas très compliqué, c'est pas si compliqué que ça. Hein, on retrouve ici le Dublin Core, les éléments du Dublin Core, title, le titre, créateur, l'auteur, la date, etc. Donc voilà ce qu'on peut trouver sur le serveur OAI de la BNF. Alors, ensuite, donc là j'ai fait quelques captures d'écran pour vous montrer comment ensuite ces notices sont récupérées dans différentes bases de données. Alors il y a The European Library. Alors on retrouve ici les modèles travaux, bien sûr. Dans le portail documentaire de la BES, évidemment. Donc avec une présentation un peu différente, mais on a les mêmes données dans la base. Et puis sur Yahoo. Alors l'exemple est assez intéressant parce que on voit bien ici que c'est la notice en OAI qui est indexée. Là, on a le visualiseur de Gallica et donc pour le même document, ce document n'est pas accessible. C'est ce que je disais sur le problème des sessions, sur le problème de la citabilité, etc., du référencement actuel de nos bases de données. Donc il y a de grandes difficultés, mais l'OAI peut répondre à ces difficultés-là avec une meilleure indexation, une meilleure prise en compte par les moteurs de recherche. Alors l'une des voies possibles, c'est de construire de nouveaux services à partir de ces données. Alors je citerai juste un exemple qui consiste plus à utiliser une méthode de push que de pull, c'est-à-dire que de push, donc de pull, pardon. C'est-à-dire que c'est l'information qui va à l'utilisateur plutôt que l'utilisateur qui va à l'information. Par exemple, on pourrait signaler les nouvelles acquisitions ou des œuvres nouvellement numérisées par des abonnements personnalisés. C'est-à-dire que l'utilisateur peut être tenu informé spécifiquement de ces nouvelles acquisitions. On pourrait également diffuser l'information en faisant découvrir des œuvres, des portions d'œuvres, des poèmes, des enluminures, des photos, des documents sonores. Pareil, en les diffusant, en utilisant la technique, les technologies RSS, le style RSS. Je vous montrerai un exemple. C'est par exemple l'image du jour de la NASA, qui peut être récupérée automatiquement par n'importe qui, par des personnes qui s'inscrivent à ce service d'abonnement, l'image du jour de la NASA. Voilà un exemple. Je crée un fil RSS pour Gallica. Je suis dans mon agrégateur de fil RSS, c'est-à-dire que au lieu d'aller voir s'il y a du nouveau sur chacun de ces sites, je vais sur ce site unique qui est Bloglines et je peux voir les nouveautés qui ont été postées sur ces différents sites. Donc là, je peux voir les nouveautés de Gallica, des pages qui ont été nouvellement numérisées. Là, c'est l'ouvrage de littérature française. Alors, on pourrait aller encore plus loin. Donc, on diffuse nos données, mais on construit des services à partir de ces données. Mais on pourrait finalement se dire qu'il faut permettre aux autres de construire
des services sur ces données. En utilisant ce qu'on appelle les services web, qui sont là encore c'est quelque chose d'assez technique, hein, des technologies fondées sur les standards web, XML, HTTP, et qui permettent à des applications de dialoguer entre elles. Donc ça repose sur différents formats, je passe rapidement, je ne vais pas entrer dans les détails. L'objectif, c'est d'externaliser des fonctionnalités pour qu'elles soient utilisables par d'autres ailleurs sur le web. La méthode, on publie une API, Application Program Interface, dans un langage qui est normalisé, et les webmasters intéressés peuvent alors intégrer cette fonctionnalité à leur propre site. Des exemples. Alors, voilà quelques exemples d'API qui sont très utilisés en ce moment par les webmasters sur Internet. Tout ce qui concerne la géolocalisation, Google Maps, MSN Referrers ou Yahoo Maps, c'est-à-dire qu'on peut intégrer cette fonctionnalité de Google Maps sur son propre site en ajoutant d'autres services. Voilà ce que c'est que le web service. La géolocalisation, également la recherche pour les catalogues commerciaux. À chaque fois que vous voyez trouver ce livre dans Amazon ou trouver ce produit dans eBay, là on a un web service, un service web. Dans le domaine du partage de signés, de photos, de issues, de Flickr, et dans la recherche dans les bases d'archives et la diffusion en temps réel, par exemple la BBC est en train de mettre au point un service web qui permettrait d'intégrer à son propre site des émissions de la BBC qui seraient diffusées en temps réel. Alors, actuellement, dans les bibliothèques, on a l'interrogation du catalogue, qui est une brique utilisable par d'autres dans le cadre de services web, avec les technologies SRU ou SRW développées par la bibliothèque du Congrès, mais on pourrait, à mon avis, imaginer d'autres services en s'inspirant de ce qui est fait pour des sites qui ont des contenus audiovisuels, qui ont des contenus multimédia. Alors, un exemple aussi un peu extrême là, de web service et d'intégration. Je fais une requête, vous voyez tout en haut, dans la barre de navigation, la barre d'outils de Firefox, qui sont les navigateurs Firefox, puisque le catalogue Oyster, je l'ai mis dans les catalogues préférés, les catalogues que j'utilise, les moteurs de recherche que j'utilise. Donc, en tapant juste dans cette barre d'outils, où que je sois sur Internet, je peux arriver à la liste de résultats d'Oyster. Donc là, pour arrêt des morales, on a deux résultats. Donc un résultat qui est sur Delica, et c'est la notice en OAI de Delica. Voilà, alors je vais conclure en reprenant et en paraphrasant le titre d'un ouvrage très connu d'Alexandre Poiret, qui s'intitule à l'univers infini. En hommage, j'ai parasité ce titre en disant du catalogue clos au réseau infini. Alors, faut-il fermer les catalogues? Faut-il les anéantir, les détruire, les disloquer? Je pense que, en fait, nos catalogues ont toute leur place sur Internet parce qu'ils fournissent une information qui est riche, qui est structurée, qui est fiable parce qu'elle est faite par des professionnels. Donc elle a toute sa place sur Internet. Mais c'est à nous de voir comment on pourrait investir pleinement cet espace documentaire qui est un objet complexe, qu'est le web, pour valoriser pleinement nos catalogues et leur donner toute la valeur et l'utilité qu'ils méritent, en diffusant l'information, en n'ayant pas peur de cette discontinuité qui est inhérente au web. Il ne faut pas avoir peur de laisser ces petits s'égarer dans le web. Et en rendant nos catalogues sociables, c'est vrai qu'on parle pas mal en ce moment de ce qui est le web social, avec tout ce partage de ressources. Et à mon avis, c'est une des voies également à explorer pour faire évoluer la sociabilité du catalogue. Voilà. Merci.